Mon œuvre d'art, c'est ma vie.
Prendre soin de moi, je vois pas trop dans quelle forme.
Il faut que ce soit utile.
Ça doit justement déclencher des choses qui, au quotidien, sont en veilleuse.
Ça peut changer ma vie, je veux dire.
J'en finis des fois par plus aimer l'humain.
Moi, en général, j'aime ou j'aime pas. Comment déterminer si c'est de l'art ou pas ? Question. Parce que c'est moche.
Who cares about care ? Un podcast qui interroge les liens possibles entre art et care par Jacqueline Ricciardi. Salut! S'il y a bien une période pendant laquelle on a crié haut et fort que l'art et la culture étaient essentiels, c'est bien pendant la pandémie. Oui bon, je sais, tout le monde en a marre de parler du Covid-19, mais t'inquiète, c'est juste pour planter le décor. Je disais donc que rarement autant que durant cette période, on a souligné le caractère essentiel de la culture. Jusque-là, tout est bien. Sauf qu'au même moment, à Genève, souviens-toi, plus de 4000 personnes faisaient la file pour obtenir un sac de vivres d'une valeur de 20 francs. Alors je sais pas toi, mais l'artiste que je suis avait quand même du mal à ne pas ressentir un peu de honte. L'art et la culture sont-ils vraiment si essentiel qu'on le répète, aussi primordiaux que d'avoir un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture, des vêtements et des relations affectives en suffisance? Si certaines et certains comme moi, moins précaires, trouvaient dans cet arrêt forcé une occasion unique de questionner la productivité et son impact sur la société et l'environnement, d'autres étaient contraints et contraintes de tout donner pour continuer à faire tourner la baraque. Voilà comment, pendant que les lieux de spectacle et de culture restaient désespérément fermés, ce ne sont plus les artistes qu'on a applaudis, mais le personnel hospitalier. Les projecteurs se sont soudain braqués sur celles et ceux qui travaillent à prendre soin d'eux, à maintenir en état, à maintenir en vie. Autrement dit, celles et ceux qui maintiennent la vie. Personnel hospitalier, mais aussi d'entretien, de la voirie, de l'alimentation. Bref, celles et ceux qu'on nomme les travailleuses du cœur. Bon, tu l'auras compris, quand je parle de cœur, je ne parle pas de la capitale de l'Égypte. Hein. Eh bien, c'est justement ce mouvement de curseur qui a amené l'artiste, la mère et la féministe engagée que je suis, à se questionner sur ce que je considère moi-même comme des besoins essentiels, à interroger la place que les œuvres occupent réellement dans mon existence. Sont-elles véritablement aussi essentielles qu'on le prétend? Peuvent-elles être un réel moyen de nous venir en aide? Dans le désir de confronter mes propres croyances et théories, j'ai rencontré plusieurs personnes évoluant hors des circuits artistiques et culturels et je les ai interrogées sur les fonctions de l'art ainsi que sur la possibilité des œuvres de prendre soin de nous, d'autrui et de ceux qui nous environnent. C'est ainsi que 11 usagers, usagères ou bénéficiaires de l'action sociale de l'Hospice Général ont accepté de répondre à mes questions. Alors, juste, je préfère te prévenir tout de suite. Certains de ces enregistrements ont été faits avec les moyens du bord, donc pardon d'avance pour tes oreilles. Avant notre rencontre, une seule consigne. Amener une œuvre qui leur a procuré ou leur procure encore de la joie ou du réconfort. Une œuvre ou sa simple évocation qui leur a permis de traverser un moment difficile, qui les a aidés à vivre. Une œuvre qui a pris soin d'elles et d'eux, en quelque sorte. Florilège.
Armée of Lover, I'm Crucified.
Crucified, on y est.
I'm Crucified. Tu le vois, clip?
Non, je vois pas le clip.
Mince.
Je suis sur Spotify et je l'ai pas, mais.
Et tu vois, c'est un truc pas connu du tout. Personne n'y penserait.
Natacha.
d'avoir ça un petit peu.
C'est complètement baroque. Ça me projette dans les années où je m'amusais. C'est une période qui est extraordinaire et ça me donne une joie de vivre, c'est étonnant, hein. Vraiment. Ça représente cette époque, une époque passée, et puis moi j'ai envie de danser là-dessus. Mais t'écoutes le texte, tu comprends. Hein. Tu te dis au moins t'es pas seul, il y a des gens qui comprennent. Parce que ça veut tout dire, I'm crucified, c'est genre je me crucifie, je suis Dieu sur la croix et j'attends que ça passe. Ben, j'ai perdu un peu la joie parce que j'ai moins de contact. J'en finis des fois par plus aimer l'humain. J'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur du futur. C'est bizarre, hein, cette angoisse. De me dire un jour, je vais me réveiller, il y aura plus d'humains, il y aura que des machines. Et les gens s'en rendent pas compte, et puis en fait, ils y vont. J'ai tendance à stagner dans le passé, un petit peu. J'aime pas du tout cet avenir. J'écoute des vieux trucs, je remets mon Walkman de l'époque. Je fais tout pour pas être dans cette époque d'ailleurs. Ouais, je supporte pas le portable, je supporte pas la voiture, je supporte pas l'ordinateur. Je suis vraiment hors norme.
Alors j'ai pensé à un tableau qui deviendrait un peu mon ange gardien et qui serait toujours avec moi.
Angelina.
C'est un tableau qui représente une femme en mouvement, dansante, une aquarelle, un petit peu abstraite. À chaque fois que je la regarde, elle est différente. Elle exprime à chaque fois autre chose et c'est comme si elle exprimait un petit peu mon humeur. Du moment, elle est la femme dans toutes ses facettes. Mère, maternante, guerrière, danseuse, elle me donne une espèce de force. Je l'appelle le féminin sacré. Et quelque part, elle trône chez moi, je sais qu'elle veille sur moi. C'est une mère, c'est une amie, c'est celle que je suis, celle que j'aimerais être, celle que j'ai été. Et j'y suis très attachée parce que je me vois changer, elle est tout le temps là. Elle a un peu ce phare dans la nuit, dans ma féminité, ce référent. Elle est entière, voilà, elle est toutes les femmes. Elle a été confidente, amie, mais surtout présence. Parce que je pense qu'on a beaucoup d'attentes des autres, des amis, des parents. Et que parfois, la plus précieuse, c'est d'avoir juste cette présence, même silencieuse, juste d'être là. Et qu'on accorde un peu beaucoup d'importance aux faits, aux mots, qu'est-ce que les gens devraient faire les uns pour les autres, alors que peut-être juste d'être là prévaut sur le reste. Donc elle est toujours là. C'est un ancrage et c'est une constante. Elle est là pour moi, elle est à moi.
C'est un petit théâtre à taille très humaine.
Françoise.
J'ai aimé l'accueil qui est dans un environnement absolument charmant. J'ai été épatée de voir les décors qu'ils ont faits. Le fait de pouvoir voir les costumes de près, de pouvoir voir les acteurs de près, ça a été vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour un si petit théâtre, je m'attendais pas à autant de travail sur la mise en scène, sur le souci du détail, sur les beaux costumes. Il y a même eu à un moment donné un jet qui sortait de scène, mais de la vraie eau sur scène. On se demande comment ils ont pu organiser ça. Je trouve ça vraiment fabuleux. Le rôle du chaboté était tenu par un petit jeune qui a juste 12 ans et il a une attitude sur scène qui est absolument incroyable. Et ça m'en fait penser à mon petit-fils. À 4 ans, il a voulu aller faire un câlin dans les coulisses au chaboté. Pour moi, c'était très parlant parce que je me dis, ben voilà, il comprend que c'est une scène, que c'est une histoire qu'on raconte, que le chaboté n'est pas vrai, que c'est un rôle qui est joué. Et il comprend que ce personnage est quelque part dans les coulisses et il veut aller rencontrer ce personnage. Dans mon cas, dans mon isolement, j'ai vu que cette œuvre du chaboté, dans les conditions dans lesquelles ça s'est manifestée. Elle m'a apporté énormément de chaleur et énormément de réconfort, dans le sens que, ben voilà, tout n'est pas perdu dans le monde. Il y a encore des belles choses, il y a encore des choses douces et drôles, même si le chaboté, c'est pas si joyeux que ça, pour finir. Pour moi, ça a été une révélation. Ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a sorti. J'étais une période où, voilà, l'âge, plus rentrer dans la vieillesse, quitter le monde actif, se retrouver seule, c'était un peu compliqué. Ce théâtre m'a fait vraiment énormément de bien. J'ai pu voir que une œuvre comme Le Chat Botté, que j'avais plus relue depuis des années, elle traverse le temps et elle trouve encore écho chez mon petit-fils qui a 4 ans. J'ai été vraiment ravie. Et ça m'a nourrie, ça m'a vraiment fait ma journée.
Moi, ce que j'aurais adoré faire...
T'aurais voulu être un arrêté.
C'est justement jouer des rôles.
Pour Patrick, c'est le fantôme de l'opéra qui l'a marqué.
Parfois, ça nous permet d'être ce qu'on aurait envie d'être. Parce que ça m'a ramené à certaines choses que j'ai vécues moi-même, en toute proportion gardée. Il y a beaucoup de points communs que je peux me trouver avec le personnage, parce que, comme j'ai dit, c'est un caractère mitigé. D'une certaine manière, c'est un peu comme un miroir. C'est que je vois quelque chose qui me ressemble, mais qui n'est pas moi. Ça m'a permis de me changer les idées, parce que forcément, quand vous êtes là devant, d'une manière ou d'une autre, bien, à un moment donné, on va penser plus qu'à ça. Et ça fait du bien de sortir d'une certaine, peut-être, réalité ou banalité, on peut appeler ça comme on veut. Et c'est du rêve. Et le rêve, ça fait du bien. Vous n'allez pas vous forcer, je pense, en tout cas pas longtemps, à regarder des choses qui vous déplaisent.
Bien que ce soit une pause un peu stricte, on va dire, il y a quand même beaucoup d'harmonie.
Abby, quant à elle, a eu un coup de cœur pour la Joconde du peintre colombien Fernando Botero.
Mona Lisa, Mona Lisa.
Cette œuvre, elle a défié ma manière de penser, de voir les choses, de ne pas se dire que tout ce qu'on nous montre, tout ce que l'on veut nous faire croire, des critères de beauté sont ceux-là. Non, ben on peut voir de très grosses femmes, comme dans cette œuvre, très harmonieuses. J'ai des origines colombiennes. J'ai grandi en Belgique, donc bien sûr, bien que je ne sois pas grosse, j'ai quand même des formes qui sont généreuses. J'avais une référence de la beauté européenne, on va dire, alors que moi, mon corps, depuis mon adolescence, il a commencé à se développer quand j'ai commencé à être une femme. Du coup, il était plus harmonieux. Et moi, je voulais être toute mince, avoir des bras tout fins. C'est venu un peu semer des petites graines qui m'ont permis de réfléchir, d'où l'importance d'avoir les bons référents. Une chanson, une œuvre de théâtre vont avoir des référents en nous, vont déclencher des choses en nous qui vont nous permettre de dire bah oui, au fond, pourquoi pas moi? Si ce personnage a pu, pourquoi pas moi?
Mona Lisa, Mona Lisa.
Mon œuvre d'art, c'est ma vie, parce que je suis tellement bien maintenant, alors par rapport au début.
Angela.
À part ça, mon art qui m'a suivi, c'était la confection.
De voir ces choses-là, ça me détend et ça me fait voyager dans le monde de ma jeunesse.
Jean-Daniel.
Cette bande dessinée où certaines œuvres me permettent de rêver encore un peu, quoi.
Mais alors, l'art et les œuvres, c'est un moyen de prendre soin de soi?
À prendre soin de moi, je ne vois pas trop dans quelle forme.
Catherine H.
Prendre soin de mon âme.
Ça nourrit le monde. Il faut encourager ces gens qui se donnent à fond pour véhiculer encore du plaisir, mais aussi, surtout, beaucoup de care. On prend soin des autres, on prend soin de soi, on s'organise pour faire en sorte que le quotidien continue à avoir du beau, malgré ce qu'on traverse. C'est important de nourrir encore cette plante-là. Dans un certain sens, si je vais voir un film où pendant 2 heures il fait moins 30 degrés sous la glace, ben je vais être heureuse que dans ma vie il fasse moins 10. Donc quelque part, ça va améliorer mon présent. Ce qui nous entoure aujourd'hui, voilà, j'arrive à un âge où je suis seule, j'ai plutôt tendance à m'enfermer, à m'isoler, à lire les journaux, à regarder le téléjournal. Et donc, je vois que je déprime très facilement parce que le monde m'inquiète. Donc, j'ai tendance à rester focussée sur ce qui se passe là aujourd'hui dans le monde. Mais à côté de ça, en sortant, en allant à cette pièce de théâtre, j'ai pu vraiment prendre soin de moi, de mon âme d'enfant aussi, de mon besoin de trouver quand même quelque chose de beau et de gentil. Là, ça devient un peu difficile.
Elle est un peu émue.
Oui. Oui, parce que c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on voit dans les journaux. C'est... Il ne faut pas oublier cette magie, cette beauté, parce que c'est ce qui nous renforce. C'est ce qui nous aide à traverser des nouvelles comme la guerre qu'il y a aux quatre coins du monde.
Disons, le fait que c'est rassurant, c'est dans le sens que...
Catherine M.
T'as tes repères à la maison, et il y a certains objets qui sont à toi. C'est un petit peu ton petit nid. Ce tableau dans la salle à manger, ça fait un peu partie de ça. Et t'as l'impression d'être chez toi. Finalement, le peintre n'a pas beaucoup d'importance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet que ça me fait.
Mais qu'est devenu l'ange gardien d'Angelina?
Alors, elle a bougé. Je l'ai placée à différents endroits. Maintenant, elle est dans le salon. Elle trône. Mais il fut un moment où j'étais triste. Elle était dans ma chambre. J'avais besoin qu'elle veille sur mon sommeil. Maintenant, c'est plus une amie. Quand j'étais en souffrance, elle était une maman. L'art m'a toujours aidé un peu dans cette quiétude et dans cet apaisement, questionnement intérieur. Avec cette pandémie aussi, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. On ne pouvait pas aller au musée, il n'y avait rien à faire. Et cette vacuité m'a fait peur de dire « j'ai le droit que de sortir pour consommer ». On n'a pas de moyens et quand on est ici livré un peu dans des phases de vie, où on ne peut pas meubler en achetant des choses, donc on est confronté à ce réel vide. Et cette nourriture qu'est l'art, sous toutes ses formes, elle manquait. C'était une disette terrible. On se raccrochait à ce qu'on avait sous la main. Autant j'ai mon chat que j'adore, qui est mon meilleur ami, qui est un être vivant, mais que je sais éphémère. Et ce tableau est intemporel. Et cette constance-là où l'interaction elle n'est finalement que unilatérale, elle est ce que je veux, elle est mon miroir, ma projection. Elle permet aussi un examen de conscience qui est moins cruel qu'un miroir. C'est là où tu dis que l'œuvre, elle dépasse même son support à un moment donné. Un tableau peut brûler, mais il vivra encore dans ceux qui l'ont vu, apprécié, ce qu'il a transmis.
Si tu veux, dans les moments difficiles ou quand ça va pas, je vais chercher en moi. Et peut-être après, je vais tomber sur un livre ou quelque chose qui va m'apaiser, mais le premier mouvement, c'est d'aller chercher à l'intérieur.
Peut-être que c'est le fait que ça provoque tout ça, que ça bouscule tout ça qui fait du bien. Parce que ça amplifie ce qu'on ressent, je pense que c'est ça. D'une certaine manière, ça peut, pendant un moment, vous faire vous sentir meilleur. C'est comme les musiques, par exemple, ça va peut-être, pendant un moment, vous faire vous sentir meilleur. Dans le sens meilleur, pas peut-être dans le sens égocentrique du terme, dans le sens que ça va amplifier ce que vous avez ressenti. Bah, ça vous met dans un état d'esprit peut-être plus éveillé, je ne sais pas, et vous prenez conscience de plein de choses. Et comme je dis, c'est bien et mal à la fois. Ça vous fait toute une série de sentiments. Et purger son âme, comme l'auraient dit les Grecs de l'Antiquité, je pense que c'est essentiel. Imaginez que vous ne le fassiez pas, peut-être que vous n'ayez aucune source d'intérêt, disons, artistique. Votre vie se résume à boire, manger, dormir, travailler. Je pense que ça créerait pas mal de troubles, soit de la frustration, soit de la déprime, qui se changerait peut-être en agressivité parce que ce serait exprimé nul. Enfin, ça c'est un concept peut-être qui est totalement désuet, mais je pense qu'il faut que ça sorte.
L'art en soi, il nous fait du bien, dans un premier temps, mentalement. Je pense surtout à ces deux années en arrière que l'on vient de vivre. Le fait d'être enfermé, je pense qu'on avait besoin d'évasion. Donc l'art en soi, on a besoin de quelque chose qui vient égayer un peu nos yeux, notre mental, nous sortir des époques un peu moroses. L'art a vraiment, je pense, un impact dans le collectif. C'est très important et parfois, je pense que les artistes ne sont peut-être pas toujours conscients de l'impact positif que ça peut avoir sur une personne.
Je pense qu'il y a la curiosité.
Christine.
Mais la curiosité d'un esprit en éveil, ça veut dire de quelqu'un qui a envie de combler ou de nourrir son esprit. Voilà, j'ai besoin d'aliments.
Il y a quelque chose qui me fait rêver dans pas mal d'œuvres que je lis, c'est qu'on se sort de tout un contexte économique. Tout ce que l'art nous apporte, c'est de se sortir de ce contexte qui nous pourrit la vie. C'est pas possible. Je me suis mis à haïr le fric. Mais je pense effectivement que pour certaines personnes qui vivent des choses terribles, ça peut être quelque chose d'important, de se réfugier, faire oublier toutes ces choses catastrophiques. C'est un moyen, je dirais, indispensable. Quand j'écoute une musique de Mozart, quelquefois je suis transporté, mais surtout pour la détente, pour l'harmonie, pour toutes ces choses-là. Il y a à la fois l'harmonie de la musique et puis l'harmonie des paroles aussi, qui sont réconfortantes, qui font penser que dans ces moments-là, on n'est pas le seul à vivre des choses de ce genre.
Si je me sens stressée, ça m'arrive assez souvent.
Salut.
Je me couche sur le canapé, j'écoute la musique. Et puis c'est ça. Je me suis perdue hier soir dans la beauté, vraiment dans la beauté. C'était une soirée assez émotionnelle quand je pense, oui, parce que ça m'a rappelé mon papa et le nombre de fois que j'ai écouté cette œuvre. J'étais stressée en arrivant et à la fin, en rentrant à la maison après le concert, c'était tout à fait autre parce que j'ai eu la chance d'écouter cette musique, ça m'a calmée. Le verre était rempli.
Si j'ai bien compris, la mission de l'art, ce serait de nous faire du bien.
Alors, il peut, mais l'art ne doit rien.
L'art, pour moi, il faut que ce soit utile.
Je ne pense pas que ce soit la responsabilité de l'œuvre d'art d'apporter quelque chose au monde. La responsabilité, c'est de recevoir les choses et de voir qu'est-ce qu'elles ont comme effet sur nous. J'imagine que ce sont comme des plantes. Si on a des plantes avec des ronces et d'autres, ben il faut pas mettre son attention que sur les plantes qui ont des roses. Il faut surtout, surtout arroser les plantes qui sont belles parce que c'est ça qui permettra de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de ronces. Et qui permettra aussi d'avoir un point de comparaison. Si on n'a plus que des plantes avec des ronces dans le monde entier, eh ben on va vite à la déchéance. Je pense que l'artiste doit rester libre d'exprimer ce qu'il a vraiment au fond de lui. Je pense qu'il n'est pas responsable de ce qu'il va causer.
Un roman peut servir à inspirer. à s'identifier, à avoir un sentiment d'appartenance ou pas, à faire jouer nos émotions. Déjà depuis la préhistoire, c'était, je pense, dans ces grottes à passer une soirée ensemble, à représenter des choses que l'on avait vécues, à laisser démontrer des événements ponctuels, ce qu'on ressent à un moment donné, que ce soit bien, pas bien. Par exemple, l'indépendance de la Belgique, elle a commencé à se faire juste après une œuvre de théâtre. À Bruxelles, juste après une pièce de théâtre, en fait, ça a déclenché une telle volonté chez les personnes qu'elles ont commencé à manifester, à tout brûler, à vouloir revendiquer une indépendance. C'est éducatif aussi. Par exemple, je prends les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. On utilise beaucoup l'art pour stimuler leur cerveau.
Prendre le temps de ressentir des choses qui sont de l'ordre du vivant, d'aller au-delà du quotidien.
Pour moi, la prison, les murs gris d'une prison, d'une cellule de prison, pour moi, ce serait infernal. Je pense que tôt ou tard, je me quitte à mettre mon propre sang pour dessiner dessus. L'utilité de l'art, c'est vraiment d'embellir ta vie.
L'art nous permet aussi, parce qu'on a toujours l'impression que les artistes sont un petit peu en avance sur leur temps. Ça nous parle d'avenir, ça nous parle de choses qui peuvent éventuellement se passer. Dans les œuvres d'art, quelles qu'elles soient, on est un petit peu en avance sur le présent. Parce que les gens qui créent ça essayent de nous faire réfléchir sur les choses à venir. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans l'art, c'est qu'ils nous ouvrent des portes. Elles nous font réfléchir, elles nous font penser autrement que la vie de tous les jours. Donc, quelque part, ça nous fait avancer. Ça, c'est primordial pour les échanges.
Nous sommes faits des choses qui sont invisibles, mais qui font partie de nous. C'est pas seulement mécanique, notre corps. Il y a quelque chose dans nous, c'est pas appelé âme, c'est esprit, ce que vous voulez, qui est très difficile à définir. On réalise qu'on n'est pas que le corps. Ce qui compte, c'est pas l'enveloppe. C'est pour ça que les gens pensent qu'il y a une vie après la mort, parce qu'ils pensent que la facette de la personnalité n'est pas confinée au corps. Il y a quelque chose derrière, au-delà, qu'on ne peut pas voir vraiment, mais on sait qu'il existe. Tout le monde essaie d'exprimer quelque chose qui n'est pas facilement explicable et pas facilement transmis non plus. Et je pense que dans l'art, oui, une expression du divin, d'où vient la mélodie, d'où vient le sens de beauté.
Il y a même des missions auxquelles on n'aurait pas pensé.
Alors mes gros livres, je les mets pour surélever mes plantes. Comme quoi l'art, il peut avoir plein d'utilités, ouais. Tu peux surélever une plante, tu peux même te surélever toi-même, tu montes sur tes livres.
Ok, mais alors l'art, c'est quoi?
Comment déterminer si c'est de l'art ou pas?
Question. C'est très difficile à définir.
Une œuvre d'art, c'est quelque chose... comment on peut dire ça? Je ne sais pas, peut-être pas les mots. Bon, pour moi, l'art, hein, c'est faire de son mieux, on va dire. Je ne sais pas comment le dire, en fait. Pour être artiste, il faut être reconnu, je pense. Ou alors, tout le monde est un artiste à ce moment-là.
J'ai pas la réponse. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui est toujours présent malgré le temps? Est-ce que c'est parce que cette chose-là s'impose à travers le temps, à travers les générations, à travers notre quotidien? Est-ce que c'est le nombre de personnes qui font la queue pour voir la cathédrale de Gaudi qui fait qu'on dit que c'est une œuvre d'art? Je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art qui sont enterrées quelque part, qui sont seules, qui attendent leur jour.
Ouais, qu'est-ce qui définit un artiste? Ben, c'est une grande question, hein. C'est ce que définit l'autre personne, en fait. Est-ce que c'est le moment où elle gagne sa vie dans son art? Et en fait, c'est ça, c'est la masse qui définit si t'es une artiste ou pas.
Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'en vivent pas et qui le sont. Je pense qu'on est nés comme ça. C'est un regard différent sur le monde. J'ai l'impression que c'est une autre dimension. Après, en faire son métier, l'expression artistique, c'est une autre chose. Mais être un artiste, je pense qu'il y a une forme de cette hypersensibilité, c'est-à-dire de voir les choses pas telles qu'on nous les présente, mais d'une autre réalité. C'est la perception de cette autre dimension qui est nue.
Alors c'est quoi la différence?
La démarche. C'est une vision à un temps donné de quelque chose qui est totalement singulière et qui peut résonner en d'autres. Parce que si elle ne résonne qu'en soi, elle ne l'est pas.
Pourquoi catégoriser? Pourquoi dire la tricoteuse un tel, elle fait un beau pull? Pourquoi dire c'est de l'artisanat et pourquoi pas dire c'est de l'art? Pourquoi pas? Quelle différence? Pourquoi mettre des classes? C'est un besoin de créer qu'elle a. C'est un investissement. C'est quelque chose qui a mûri à l'intérieur et qui doit sortir. Donc, pour moi, c'est de l'art. Après, dire c'est des bons artistes, des mauvais artistes, c'est eux qui prennent le risque. Mais au départ, ils osent afficher quelque chose qui doit éclore. Et ils le font. Je trouve que le fait de catégoriser, ça va restreindre beaucoup de vocations. Après, tout dépend d'où on part pour considérer que quelque chose est une œuvre d'art. Voilà. Être un artiste, ça demande énormément de discipline.
Si tu veux une fleur, elle est, et ça lui suffit, et à moi aussi. Alors si je la considère comme une œuvre d'art, oui, je peux. Une fois que j'ai vu la fleur dans son essence, qu'est-ce que je vais y mettre?
Mais on est un peu tous des créateurs. On peut être un artiste pâtissier, un vrai artiste. Je pense que les cuisiniers, moi j'ai travaillé dans l'hôtellerie, il y a vraiment des pâtissiers et des cuisiniers, c'est des artistes. C'est son occupation principale la plupart du temps. Même s'il travaille à nettoyer les bureaux trois heures par jour pour mettre du beurre dans les épinards. Mais en fait, le reste du temps, il passe son temps dans son atelier à créer des trucs ou à s'entraîner sur son piano, sur son saxophone ou sur je sais pas quoi. Donc c'est vrai que c'est une activité qui lui prend la tête en permanence. Où s'arrête la qualité d'artiste et de non-artiste? Alors c'est vrai que je ne saurais pas vraiment définir. Mais moi, je trouve que la limite est très floue.
Je ne pense pas que ce soit la responsabilité de l'œuvre d'art d'apporter quelque chose au monde. La responsabilité, c'est de recevoir les choses et de voir qu'est-ce qu'elles ont comme effet sur nous. Moi, je dis à mes enfants, si vous ne supportez pas les épinards, eh ben, ne mangez pas d'épinards. Ou alors, apprenez à les digérer. C'est pas l'œuvre d'art qui fait qu'elle est œuvre d'art, c'est les personnes qui la voient et qui s'en nourrissent, qui font d'elle une œuvre d'art ou pas. Moi, je peux considérer que quelque chose n'est pas une œuvre d'art parce que ça me parle pas, parce qu'elle ne me touche pas. Et puis, à côté de moi, il peut y avoir 100 personnes qui vont avoir des frissons, qui vont être touchées par cette chose. Je pense que c'est vraiment une question de perception.
Chaque œil est différent. Je le vois dans le paysage aussi. La hiérarchisation de ce qu'on voit est dictée par nos sentiments. C'est pas vrai qu'on voit tous la même chose, on n'est pas des appareils photo. Il n'y a que des perceptions, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réalité, finalement.
Celui qui va recevoir, d'une certaine manière, va voir ce qu'il aura envie d'y voir. Ouais, bah c'est dans l'œil de ceux qui regardent, j'ai envie de dire.
J'aime pas l'évolution de l'art. Pour moi, je vais te dire, j'ai vraiment un blocage, c'est avec l'art contemporain. J'étais gardienne au musée d'art contemporain pendant une période quand j'étais au chômage. Et puis, alors, t'as du bon et du pire comme dans l'humanité, hein. Mais je veux dire, le mec qui avait mis ses poubelles, qui sentait en plus parce qu'il fallait l'odeur, et puis que ça coûtait 10 000 francs, je me dis, moi j'ai plein de poubelles à la maison. C'est de la manière dont ça a été amené que c'est un peu du foutage de gueule. Que là, ben, moi, les poubelles, j'ai pas compris dans cet endroit-là. Surtout pendant un mois, je vais dire, ça puait. C'était pas expliqué son geste, en fait, la démarche, juste le prix de l'œuvre.
C'est vrai que l'art contemporain, j'ai de la peine. Hein. J'ai franchement de la peine. J'avais vu au même coup une espèce de tas de graisse, on aurait dit un tas de merde, pour la vérité. Et franchement, moi, alors, ça me parlait, mais alors vraiment, mais vraiment pas. Et je me demande comment c'est possible de faire des trucs pareils. Mais je comprends que les artistes veulent se démarquer des autres en inventant n'importe quoi. Je veux dire, c'est vrai, parce que c'est moche. Mais pour moi, ça doit être beau.
Mais quoi ? Ça doit forcément être beau ?
Non, c'est un peu plus complexe que ça. Parce qu'il y a des choses que je trouve belles, qui ne le sont pas forcément pour tout le monde, ou qui ne le sont pas forcément. C'est plus les vocations ou ce que ça va susciter en vous.
Non, bien sûr que non. Je pense que l'art représente vraiment tout ce qu'il y a dans une société, le bon comme le moins beau. Oui, bah, ça reflète vraiment tout dans son ensemble.
On essaie de montrer la beauté. Mais il y a des choses qui ne sont pas du tout beaux dans l'art. Si je pense à Guernica de Picasso, par exemple, c'est une œuvre qui a eu beaucoup d'influence sur le monde. Et ça montre des choses horribles.
Et un monde sans art, ce serait comment ?
Non, ça c'est impensable de vivre sans musique pour moi.
Quand tu retraces l'art dans les époques, tout ce qui a eu du passé, si tu l'avais pas eu, tu saurais pas. Si ça n'existait pas, qu'est-ce qu'il y aurait pour l'humain, tu vois, pour se défouler, pour vivre. C'est aussi un bel exutoire, tu vois.
Ça ne fait même pas réfléchir sur d'autres façons de penser.
Ce serait quoi ? Une action de care qui serait de l'art ?
La cuisine. Toujours.
Tous les produits sont là. Alors je vais commencer. Alors pour l'inspiration, musique. Mais Wagner, c'était pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le rhinocéros. Enfin, mais pour la poularde de Bresse ou homard de Roscoff, il faut autre chose. Alors trouvez-moi une musique légère. Spirituel, subtil, dosé.
L'art culinaire, hein, tu peux prendre des sachets tous les jours et puis mélanger avec de l'eau, puis tu te dis, bon ben voilà, moi, ah, c'est pas mon truc. Ou tu peux t'épanouir dans la cuisine. Donc en fait, l'art, tu peux en faire partout. Tu peux en pratiquer partout. C'est juste la notion de faire quelque chose en conscience. La cuisine, c'est une démarche artistique, mais c'est un peu gonflé de considérer ça comme une œuvre d'art.
Considère le moment qu'on vient de passer ensemble. Tu penses que cet entretien est une forme de care ou d'art ?
Ce qui sort de cette question, c'est l'image du mécanisme d'une montre. Et comme si j'étais une montre. Et cet entretien, pour moi, c'est vraiment ce que je vois. C'est comme s'il y avait eu une brindille dans ce mécanisme et que tu as enlevé cette brindille. Je vois ça comme une mission de sauvetage.
C'est aussi une forme de care parce que je me montre ouverte à toi et finalement, j'ai aucun tabou. J'ai joué carte sur table, j'ai rien caché. J'ai dit tout ce que je pense alors qu'on se connaît pas vraiment. Je pense que ce soir, on va discuter avec mon mari d'ailleurs.
Oui, je pense, parce que bon, c'est vrai que ça fait à la fois réfléchir sur ce qu'on est, ce qu'on aimerait être, et en même temps, c'est vrai de se poser la question sur l'importance de l'art dans notre vie de tous les jours, alors qu'on sait que ça existe, mais on n'en profite pas forcément.
C'est un moment de care, parce que c'est de s'offrir mutuellement quelque chose avec de la bienveillance et se donner du temps. Donc c'est un moment de partage. Une rencontre, c'est violent. On l'oublie tellement, la violence de la rencontre. C'est se confronter à soi, à l'autre. Et aussi dans une intimité comme ça, il y a ce brutalisme quelque part. Et je pense qu'il y a une forme d'art à se confier à cet inconnu aussi, de ce bilan, de connecter un peu son passé à celui de l'autre dans des jeux de réflexion, de miroir avec des prismes. On est dans une triangulation absolument folle et avec les émotions qui se raccordent pas nécessairement à ce moment-là. Donc juste ce bouillon-là, je pourrais dire que ça s'apparente un peu à la phase de conception artistique. pas dans son expression, mais à la préparation. C'est la toile blanche, les ébauches, tout ce bouillon-là qu'on va ensuite synthétiser pour en faire une œuvre. Donc oui, je m'inscris à cet instant dans ta démarche artistique qui est pensée, qui est dans ta tête, à laquelle tu te nourris de nous pour en produire quelque chose. Donc c'est pas ce moment qui est de l'art, c'est ce que tu vas en faire.
Alors, l'art peut-il être un moyen de prendre soin de soi, d'autrui et de ce qui nous environne? Pas si simple d'y répondre en deux mots. Hein. Il semblerait que ce soit plutôt une question de sensibilité et de perception. Et toi, t'en penses quoi? Allez hop, au boulot! C'était Who Cares About Care, un podcast de Jacqueline Ricciardi mis en onde par Charles Menger dans les studios de Radio Vostok. Cette création sonore a été réalisée grâce à la bourse artistique Résidence Croisée de l'Hospice Général de Genève.